Ce samedi a lieu une journée de solidarité avec les migrants de Noranfonte. Noranfonte, c'est une petite commune située près de Béthune et proche de l'autoroute A26. Pour nous rappeler la situation des migrants sur place, on a contacté par téléphone Lily Boilet, présidente bénévole de l'association locale Terre d'Errance.
Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a des migrants qui sont de passage en fait. Par le village pour accéder à la station-service de l'autoroute A26, qui se trouve donc pas très loin du village. Et ça fait à peu près 4 ans que des gens se sont déplacés vers le camp, bon, pour le trouver, et puis pour aller voir comment les gens qui vivaient de façon temporaire allaient. Et ça fait 3 ans qu'une association, donc l'association Terre d'Errance, a été créée. En fait, dans la foulée d'une destruction qui avait eu lieu en décembre, le 20 décembre 2007, par moins 4 la journée et moins 8, moins 10 la nuit, qui avait laissé une quarantaine de personnes sans abri, la proie du froid.
Quelle aide vous fournissez aux migrants de passage ?
Il y a le volet d'abord hygiène et humanitaire, c'est-à-dire que on va les chercher 2 fois par semaine pour leur permettre d'avoir une douche. Donc ils ont donc du coup 2 douches par semaine, le mardi et le vendredi, dans des gymnases qui nous sont laissés gracieusement par 2 municipalités, celle d'Amon-Artois et celle d'Isberg. On leur permet d'avoir un accès aux soins de santé, c'est-à-dire avec des accords avec Médecins du Monde et avec les médecins locaux. On leur permet aussi d'avoir une aide technique pour améliorer leurs conditions de vie sur le camp, c'est-à-dire se protéger de la pluie, du froid, de tous les aléas qui sont dus à la vie à la rue, hein, à la vie dehors. Mais surtout, la principale action des bénévoles, c'est d'être présent quotidiennement sur le camp pendant de longues heures et donc de créer un lien humain, un lien social avec ces personnes qui sont de passage, qui ne resteront peut-être pas en France, mais qui en tout cas resteront en Europe et qui donc apprennent à connaître les Européens. Et donc ça permet aussi, cette présence quotidienne, de les protéger de toutes les exactions qui pourraient être commises à l'encontre de ces personnes vulnérables, que ce soit au sein des migrants, des gens peut-être peu scrupuleux, que ce soit des gens de l'extérieur qui viendraient profiter de la misère. Et que ce soit aussi des exactions policières qui ont généralement lieu à Calais et pas du tout à Noranfonte.
Alors récemment, le préfet du Pas-de-Calais donc a mis en demeure le maire de Noranfonte de démanteler en fait le campement de migrants là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
Oui, il s'avère que donc depuis la fermeture de Sangatte en fin 2002, il y a des migrants en fait partout sur le territoire du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord, mais également à Cherbourg par exemple, ou Paris, ou en Belgique. Donc la destruction du camp de Sangatte a vraiment dispersé tous les groupes et a laissé des municipalités livrées à elles-mêmes aussi face à cette question. C'est-à-dire que l'État n'intervient pas du tout en termes d'aide aux victimes. Donc les migrants, quand ils ont été victimes de gens un peu scrupuleux, comme des passeurs ou autres, que ce soit en termes d'aide administrative, il n'y a absolument aucun agent de l'État qui vient apporter de l'information sur le droit d'asile ou les régularisations ou les retours volontaires à ces gens, et aucune aide médicale. Vraiment, l'État n'intervient pas du tout. Donc les municipalités se retrouvent seules face à cette question. La seule aide de l'État qui est proposée aux municipalités, c'est le volet répressif. Donc c'est de venir régulièrement pour contrôler les gens, les interpeller, les placer en garde à vue, après qu'ils soient relâchés au bout de quelques heures. Ça, c'est la situation qui est quasi habituelle jusqu'à début décembre, où sous la pression des associations nationales et locales, le préfet du Nord a octroyé 100 000 euros à la mairie de Calais pour la prise en charge du plan Grand Froid, qui permet sur Calais d'abriter 200 personnes à peu près. Cette aide a été exclusivement auprès de Calais. Elle a pour l'instant été mal utilisée à Calais, puisque c'était fait dans la précipitation, avec assez peu de concertation avec les associations locales. Mais le maire de Noranfonte s'est donc posé la question de dire comment se fait-il qu'il y ait des migrants dans une vingtaine de communes différentes dans le Nord-Pas-de-Calais, mais qu'il n'y ait que la ville de Calais qui reçoive une aide d'État pour gérer le plan Grand Froid. Voilà, parce que lui, sur Noranfonte, ça fait 3 ans maintenant qu'il donne accès à une salle communale pour que les migrants puissent s'abriter quand il fait vraiment très froid. C'est l'association qui gère le quotidien et aussi qui prend en charge une partie des frais. On rembourse la municipalité pour l'électricité, le chauffage, l'eau. Et donc sans aide de l'État, absolument, et pour éviter que tout soit à la charge de la commune. Donc il a écrit en début décembre au préfet en disant que il était assez surpris qu'il y ait deux poids, deux mesures, que voilà, qu'il y ait une commune qui soit aidée et pas les autres. Et donc il aurait voulu pouvoir en discuter avec le préfet. Et donc la réponse du préfet a été voilà, la mise en demeure, un mouvement d'agacement, une faute d'humeur, et la mise en demeure du maire de détruire le camp. Alors, voilà où on en est aujourd'hui.
Alors est-ce qu'il est toujours présent ce camp ? Donc il faut dire que donc ce camp est actuellement inoccupé puisque les migrants sont ailleurs en ce moment.
Voilà, donc les migrants sont toujours dans une salle communale, bien que le plan grand froid soit levé, puisque on a dit donc nous avons rencontré le préfet le 10 janvier. Et donc on lui a dit que voilà, le plan grand froid était levé, mais qu'on avait bien compris que comme lui voulait profiter du fait que le camp était vide. On n'allait donc pas dire aux migrants de repartir vers le camp. Il fallait qu'on gère cette question, qu'on tranche cette question avec l'État et avec le préfet avant que les migrants réintègrent le camp. Donc jusqu'alors, ils sont toujours dans la salle communale. Et le camp existe toujours. Pour l'instant, il n'y a eu aucune opération de fait. Le maire s'est engagé lors de la réunion du 10 janvier à, effectivement, faire disparaître le camp le jour et uniquement le jour où il n'y aurait plus de gens qui auraient besoin d'un abri puisque seraient obligés de vivre dehors. On entame du coup avec le préfet un travail de fond, essayer de se mettre autour de la table sur les questions de fond de cette question de transit dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, parce que ça, évidemment, tout le monde l'a compris, ça ne concerne pas que Noranfonte. Et c'est une question qui dépasse largement les prérogatives du préfet du Pas-de-Calais, puisque c'est une question nationale, internationale, enfin voilà, européenne, voire mondiale.
Avec le préfet, ou comment tu vois les choses, comment tu vois la suite de ces échanges?
On était le maire est sorti relativement enthousiaste, content en fait de la rencontre, parce que le début d'un travail avait été amorcé avec les autorités, donc les élus locaux et les associations. Moi aussi j'en étais satisfaite puisque des propositions avaient été faites, mais qui ne constituer à mes yeux effectivement qu'un début. Des propositions qui, à elles seules, ne suffisent pas, à elles seules ne régleront pas la situation, mais qui pouvaient être un début pour voir un peu comment ça pouvait se passer, comment on pouvait mettre en place se laisser le temps de voir ce que ça donne sur le terrain. Le souci, c'est que depuis le 10 janvier, on n'a toujours rien vu arriver. Et puis que les différentes conversations qui ont pu avoir lieu depuis n'augurent pas tellement d'une suite réellement efficace en termes d'action en fait des agents de l'État, et surtout nous du côté associatif où on s'engage à veiller en fait sur les migrants, à laisser faire l'État, laisser faire les élus locaux, mais à veiller à protéger, à veiller aux droits en fait des migrants. La semaine dernière, donc la rencontre a eu lieu le lundi, le 10, et dans la nuit de mercredi à jeudi, une vaste opération policière intervenait en fait la nuit, à 2h du matin, sur le parking, qui avait pour but d'effrayer les migrants, d'en attraper quelques-uns et de tenter de les expulser vers l'Érythrée. Donc on ne peut pas comprendre, à l'heure actuelle, comment il est possible le lundi de dire, on va proposer des hébergements à toutes ces personnes, des agents vont venir proposer des hébergements à ces personnes et amener ces personnes vers ces hébergements. Puis, en seconde étape, des agents vont venir proposer des solutions administratives à ces personnes, Donc nous, on envisage comme l'asile, comme des propositions de régularisation, ou au moins un dialogue entre les migrants et l'État français pour observer leur situation. Et que 2 jours après, l'autre message, qui lui est beaucoup plus parlant pour les migrants, parce qu'ils l'ont vécu de plein fouet, si je puis dire, sans intermédiaire, parce que jusqu'alors les propositions positives, c'était par notre intermédiaire, c'est moi qui ai transmis le résultat de la rencontre aux migrants, tandis que là, 2 jours après, c'est bien la police aux frontières, la gendarmerie et un corps de police indéterminé en tenue de camouflage qui se sont précipités sur le groupe de migrants, ces policiers en tenue de camouflage assez violemment, en tout cas par surprise et assez violemment, et puis ensuite qui ont entamé des procédures d'expulsion. Donc ça, pour ça, les migrants, c'est incompréhensible. Ils ne peuvent pas comprendre comment ils pourraient avoir confiance dans les agents de l'État qui devraient venir cette semaine, alors que la semaine précédente, on a essayé, on les a encore inquiétés, harcelés, violentés, et on a essayé de les expulser.
On est toujours par téléphone avec Lily Boilet, présidente de l'association Terre d'Errance, association qui œuvre auprès des migrants à Noranfonte, près de Béthune. On l'a questionnée sur la LOPSI, loi qui porte sur la sécurité intérieure. Cette loi inquiète les associations qui craignent des conséquences sur les conditions de vie des migrants.
On est de toute façon inquiet ces derniers mois sur tout le carcan législatif qui est en train d'évoluer vers quelque chose de très très restrictif au niveau des libertés, des citoyens en général, mais notamment des plus vulnérables, donc des étrangers, donc les étrangers sans papier et les demandeurs d'asile et les Roms. Et la loi LOPSI, effectivement, donne la prérogative au préfet de passer au-dessus des maires, sans les mettre, voilà, sans mise en demeure, sans rien, pour dans le cas de destruction de camps insalubres ou qui causeraient des troubles à l'ordre public. Et on sait comment la police et les préfets utilisent à outrance ce trouble à l'ordre public. Parce que là, en l'occurrence, sur Noranfonte, le trouble est invoqué, et le trouble, c'est le découpage du grillage de la SANEF. Donc on ne veut pas dire que ce n'est pas une nuisance pour la SANEF, mais on veut quand même relativiser. Et puis les plaintes des chauffeurs qui en ont effectivement, qui sont gênés effectivement par le fait que les migrants pénètrent en infraction en fait dans leur camion et abîment parfois leur marchandise. Chose que tout le monde peut comprendre entre les désagréments, on appellera ça comme ça, et l'extrême nécessité pour des êtres humains d'atteindre un pays où ils pourront déposer l'asile de façon effective, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les migrants vont en Angleterre.
Inquiété par la loi LOPSI, inquiété j'imagine aussi par la loi Besson.
Oui, la loi Besson est un recul très très net de la France vis-à-vis des droits de l'homme, notamment en termes d'accès aux soins. Il y a des mécanismes dans cette loi qui sont extrêmement dangereux pour les étrangers, effectivement, mais pas seulement. Dans l'accès aux soins, c'est l'ensemble de la population française qui est concernée, puisque il est très clair, c'est observable partout dans le monde et dans l'histoire, que si on ne prend pas soin d'une population présente sur le territoire, du coup, quelle qu'elle soit, hein, la maladie ne se fiche complètement de savoir si on a des papiers ou si on n'en a pas. Donc si on ne prend pas soin d'une population globale sur un territoire, cela met en danger l'ensemble de la population sur le territoire. Les risques d'épidémie, puis la précarité, le stress, l'angoisse, l'agressivité due à la maladie, à l'absence d'accès aux soins. Voilà, cette loi Besson prévoit par exemple l'obligation de payer 30 euros pour accéder aux soins. Donc c'est la mort du système qui a une renommée mondiale, hein, du système français en termes d'accès aux soins. On avait le meilleur système, donc c'est la mort de ce système gratuit d'accès aux soins, puisqu'en plus des tas de gens n'auront jamais les moyens de payer 30 euros pour avoir accès à un docteur, donc on ira tout simplement plus se soigner. Et les associations, sur le cas des migrants ou des Roms, n'ont absolument pas les moyens de payer 30 euros pour chaque soin apporté à une personne. Donc ça, c'est le plus grave en termes de population globale. Mais en termes d'une loi liberticide, voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui sont exclusivement faits pour laisser la main libre entièrement, enfin vraiment libre cours au pouvoir administratif. On exclut les juges de l'observation des dossiers en fait de ces étrangers. On exclut la possibilité d'accès aux avocats, d'accès de pouvoir contacter les associations, de pouvoir contacter la famille. Et voilà, et laisser trop de pouvoir à l'administration, on l'a vu dans l'histoire, en France comme partout ailleurs, voilà, c'est le début de dictature.
Réagir, une journée de mobilisation est organisée ce samedi 29 janvier. Lily Boilet nous en dit plus.
Ça débutera d'abord à 10h du matin par une marche en fait entre la gare d'Isberg et le village de Noronfontes sur le parcours que les migrants utilisent tous les jours quand ils reviennent de leurs échecs. Et puis après d'une auberge espagnole, donc on partage le repas tous ensemble pour pouvoir entamer les discussions et enfin des tables rondes, différents temps d'échange et de débats entre voilà les associations, les élus locaux et d'autres personnages politiques européens qui viendront de parler de toutes ces questions de l'immigration, effectivement le point de vue qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Le traitement des personnes en France ou en Europe, les lois restrictives, l'asile, le fait que l'asile est bientôt mort, en France comme en Europe, la fermeture des frontières européennes, donc la mort de milliers et de milliers de personnes aux frontières extérieures de l'Europe, comme au Maroc, en Libye ou en Turquie. Donc tous ces sujets seront abordés dans le but d'informer et de prévenir les citoyens de ce qui est en train de se faire en notre nom.
Lily Boilet de l'association Terre d'Errance, jointe par téléphone mercredi dernier. Je vous rappelle donc les rendez-vous de cette journée intitulée Résistons. Ce samedi à 10h du matin, marche solidaire d'Isberg à Noronfontes, ça fait à peu près 7 km à pied. À midi, repas en auberge espagnole. Et à partir de 13h30, table ronde et prise de parole. Ça se passera à la salle des Tilleuls, rue Jules Ferry à Noronfontes. Vous aurez plus d'infos sur le blog Terre Errance, tout collé, .wordpress.com. terreerrance.wordpress.com.
De liberté, j'ai fui un pays en guerre pour un autre que l'on disait être celui des lumières. J'ai dû me tromper d'endroit où j'ai dû comprendre à l'envers. L'envers du décor, le voilà. Je ne suis pas votre frère, je suis un étranger en situation irrégulière. Puisque je n'ai pas de papier, je serai reconduit à la frontière. Je fus arrêté au matin, avenue de la République. Sur moi ils ont mis la main, je ne suis qu'une statistique. Scénario classique de l'homme noir, serré par des hommes en bleu, qui disent ne faire que leur devoir, comme tant d'autres bien avant eux. La loi c'est la loi, et la loi est claire. Sans papier je n'ai pas d'autre droit que de me taire.